dedans de toi. Tu mettras en réserve et tu ne sauveras pas. Et ce que tu sauveras, je le livrerai à et tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive et tu ne feras pas d'onction avec l'huile. Tu presseras le moût et tu ne boiras pas le vin. On observe les coutumes d'Omri, idolâtrie, hein, et toute la manière d'agir de la maison d'Akab. Et vous marchez d'après leurs conseils. C'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de raillerie et vous porterez l'opprobre de mon peuple. Daniel m'a bien aidé en lisant jusqu'au bout ce chapitre 10 qui a des choses difficiles. Hein, sur « il n'y a plus d'offrande quand on a péché volontairement ». Et je n'ai pas craint, je savais que je connais l'immense grâce de Dieu. Ces choses sont là pour nous alerter, comme ce texte, il est là pour nous alerter. Et j'ai voulu le lire en entier, je vais m'attacher à ce verset 8, mais il nous dit quoi en introduction? Il nous dit que le Seigneur a tout accompli, ce si grand salut. Pour Israël, c'était la sortie d'Égypte, pour nous, nous savons, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et puis les conséquences qu'il tire d'un peuple qui ne reviendrait pas, qui continuerait d'abandonner l'Éternel, parce que c'est de cela dont il s'agit, le Seigneur nous enseigne pour qu'on ne soit pas surpris. Il peut se passer des choses dans les vies quand on a abandonné, et notre péché, même pardonné, peut garder des conséquences. Je voudrais insister là-dessus, non pas pour décourager, mais au contraire pour encourager. Nous avons passé avec Marie-Annick une semaine dans une maison chrétienne en Alsace, au Tabor. Et un pasteur, Paul Calzada, que certains connaissent là, a passé la semaine autour du pardon. C'est un thème que j'aime souvent dans l'enseignement. On a abordé ces sujets-là et vraiment, qu'est-ce qu'il y a à dire? La capacité de pardonner de Christ, on la comprend pas bien, c'est sûr. Mais c'est pas une raison pour en abuser. Et il soulignait combien le pardon de Dieu pour nos péchés, il est complet. Toutefois, les conséquences, une prière était dit, nous avons mangé le fruit du mensonge, le verset de l'année nous rappelle, nous avons mangé le fruit du mensonge, nous avons consommé l'iniquité, ce n'est pas sans conséquences. Le temps que les choses soient renouvelées, il y a des conséquences qui peuvent, dans notre propre vie, dans la vie de nos familles, dans la vie des enfants, des conséquences qui peuvent durer. Cela ne doit pas nous décourager. Je rappelais, il y a quelques jours ou trois semaines, c'est là ce qui fait notre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, il y a des épreuves. Il faut qu'on ait cet amour de la vérité. Nous pouvons proclamer, nous faire bonne mine, ça va bien, et puis chantier youpi youpla, mais la réalité, c'est que oui, il y a encore des choses difficiles. Et ce matin, on doit être encouragé pour persévérer et être bien positionné sur ce qu'est le pardon, sur ce qu'est la bénédiction, sur quelle bénédiction on recherche, etc. Alors, je vais me centrer sur ce verset, le verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Je ne serai pas très long là-dessus. On t'a fait connaître, ô homme. Si Michée proclame cela, prophète de l'Ancien Testament, n'ayant pas vécu, même s'ils ont salué de loin, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, à combien plus forte raison, nous tous ici, qu'aujourd'hui, vous ayez accepté Christ ou pas, vous tous ici, nous tous ici, on nous a fait connaître ce qui est bien. La parole de Dieu, elle est disponible aujourd'hui dans notre pays. Elle est disponible. Nous allons fêter les 500e anniversaire des publications des thèses de Luther, j'aurai l'occasion d'en reparler. Luther est arrivé à un moment où l'imprimerie est arrivée. Ça a permis rapidement de diffuser la parole de Dieu dans les langues de chaque nation. Aujourd'hui, plus de 3000 traductions d'une partie de la Bible sont disponibles dans le monde. Donc aujourd'hui, nous avons, dans notre pays, nous avons la parole de Dieu disponible à travers des Nouveaux Testaments, des Bibles, sur Internet, sur... Voilà. Alors bon, on a ça. Et puis, ce qu'on a comme les hommes du temps de Michée, nous avons la création de Dieu sous nos yeux. Elle parle. Elle parle. Et puis, nous avons la conscience que Dieu a mis en nous. Et même si elle est obscurcie, elle nous indique quand même des choses qui vont et qui ne vont pas. En tout cas, nous avons la parole de Dieu et nous avons dans notre pays la liberté d'en prendre connaissance. Donc, nous pouvons entendre cette parole, « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien ». Et quand Dieu parle, il attend de nous une réponse. C'est d'abord Dieu qui parle, et on peut s'approcher de lui pour qu'il nous parle. Et quand il a parlé, il y a un chant qui dit « Quand il a parlé, on ne peut plus douter ». Mais il attend une réponse de notre part. « Oh, le Seigneur m'a parlé, etc. Qu'as-tu fait de ce qu'il t'a dit ?»« Le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a montré un truc qui ne va pas. Qu'en fais-tu » L'Éternel nous demande quelque chose. Ce que l'Éternel demande de toi. Et là, dans ce verset, il va nous parler de trois choses. Il nous demande trois choses. Que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. Intéressant. Il aurait pu dire que tu aimes la justice, que tu pratiques la miséricorde. Il n'a pas dit ça. Il a dit que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Pratiquer la justice, ah, ça c'est un... J'ai lu tout ce texte parce que des choses assez concrètes nous sont données dans la suite du texte. Oh, vous allez dire, bon, ça veut dire pour nous, y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques et un épha trop petit ? Alors un épha, c'est une mesure, hein ? C'est-à-dire, il y a encore des trucs, y a-t-il encore dans ma vie, j'ai connu le Seigneur il y a un mois, un an, 10 ans, 20 ans. Normalement, quand le Seigneur vient vraiment toucher notre vie, qui nous montre notre misère, il traîne dans nos vies des choses qui ne collent pas. Alors, j'ai souvent dit ici, quand le Seigneur est venu dans ma vie, ça a tellement été radical que j'avais cru que tout était réglé. Ça ne vous rassure pas, moi non plus, mais j'ai bien vu que tout n'était pas réglé. Mais en tout cas, il y a des choses qui ont été réglées, une fois pour toutes. Et nous avons... pour les uns, ça va être des questions d'impureté. Pour les autres, ça va être question de, j'en sais rien, de cupidité. Pour d'autres, des addictions de toutes sortes. On parle de la puissance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit convainc de péché, il doit se passer quelque chose. Il doit se passer quelque chose. Et il se passe quelque chose. Ou alors, c'est que le Saint-Esprit n'a pas agi. Si le Saint-Esprit convainc de péché, le péché est abandonné. Je crois que dimanche dernier, il va parler qu'il y avait des choix à faire. Le Saint-Esprit, il éclaire. Alors s'il éclaire, là, on a une réponse. Il me montre que ça ne colle pas. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Reste-t-il un épha trop petit ? Reste-t-il un instrument de mesure ? Une pensée sur la justice, peut-être d'ailleurs, qui est plus empreinte de revendication, j'y reviendrai. S'il y a de la pureté, peut-être que tout, Dieu n'a pas ôté tout, je ne suis pas libéré de tout, mais au moins il y a une chose que je sais. C'est que ça ne colle pas. Alors, est-ce que je marche avec dans les ténèbres ou est-ce que je le mets à la lumière ? Parce que ça, le Saint-Esprit, il est aussi lumière. Reste-t-il un épha trop petit, objet de malédiction ? La chose est sérieuse. La chose est sérieuse quand on voit certaines vies et ce n'est pas une accusation. Mais la parole nous éclaire. C'est manifeste, il y a des malédictions. Peut-être est-ce moi-même, peut-être est-ce mes pères, mais alors que je cesse de me glorifier, Moi, j'appartiens à telle tribu, j'appartiens à telle nation, j'appartiens à telle caste, je fais tel métier et j'en tire gloire. Alors que peut-être vont avec ces choses des manifestations qui sont loin d'être à la gloire de Dieu. Entendons, recevons l'avertissement du Seigneur pour être libérés. Est-on pur avec des balances fausses ou de faux poids dans le sac ? Tout cela doit être revu à la lumière de la justice manifestée à la croix. Et la justice manifestée à la croix, c'est quoi ? C'est un innocent pur de tout péché qui meurt pour des pécheurs. C'est un scandale. Pratiquer la justice, il y a aussi, là j'ai donné des choses qui vous, pour certains paraissent assez basiques, mais s'il y a longtemps que c'est réglé, tant mieux. Tant mieux, mais des fois, il peut rester des choses. Il y a un côté plus, je vais dire, plus positif dans le Nouveau Testament. La justice, c'est aussi une loi d'égalité. Je pense à cette histoire de la collecte que Paul avait organisée et qui dit « La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. » Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Ça, je veux dire, c'est un côté plus positif quand l'œuvre de l'Esprit a agi dans les cœurs lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu, qu'il a répandu un amour, alors nos conceptions de la justice, de l'égalité changent. Je rappelle que le Seigneur précise que la justice et l'équité sont la base de son trône. Elles sont enracinées à la croix, c'est la justice et l'équité qui a été rétablie. Justice a été faite à la croix. Par la mort de Jésus-Christ. Alors, la bonté et la fidélité sont devant sa face. Je reviendrai là-dessus, aux côtés de la miséricorde. Il y a les deux côtés, on a du mal des fois à concilier les deux, ou alors on reste avec un Dieu de justice, comme les symboles qui pèsent et puis claquent, qui tranchent, et puis on oublie sa bonté, ou l'inverse. Ce verset nous rassemble bien dans le psaume 89, les deux choses. La bonté et la fidélité de Dieu, elle peut se manifester parce que la justice a été accomplie. Christ est mort. C'est Romains 3 qui nous le dit très clairement. À la fois la justice de Dieu est satisfaite, elle permet que nous soyons justifiés et pouvant paraître justes devant Dieu. La justice que nous avons à pratiquer, déjà dans l'Ancien Testament, elle est indiquée. Dans Deutéronome 15, par exemple, les versets 3 à 5, je donne que quelques exemples pour montrer que, je le soulignerai tout à l'heure, nous avons des fois les notions de la justice qui nous arrangent bien, quoi. Dans Deutéronome 15, versets 3 à 5, tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Tu pourras presser l'étranger, mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. Toutefois, il n'y aura pas d'indigent chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, ce que l'Éternel demande de toi. Intéressant ce passage, vous savez, la notion du relâche, c'est-à-dire que là on voit déjà, j'anticipe, je vais un peu mêler les deux thèmes, mais la miséricorde de Dieu. Si tu tenais compte de tous nos péchés, nos iniquités, Seigneur, qui donc subsisterait ? Mais auprès de toi se trouve le pardon, il se trouve en abondance, nous dit le psaume 130. Là, il est parlé des dettes, des prêts, finalement du droit de propriété, qui a été érigé en quasiment culte dans notre nation en 1789 et après, bon, qui a bien été écorné depuis. Mais là, il est dit, je ne rentre pas dans les détails, mais si quelqu'un se trouvait dans une situation difficile, était amené à vendre ses biens, à lâcher ses biens à son créancier, eh bien, au bout de 7 ans, la dette tombait. Alors, vous voyez les pensées que ça peut faire naître. Si l'affaire arrive à 2 ans, que le créancier il récolte le bien à 2 ans de l'année où on va faire relâche, de l'année sabbatique, on va dire, aïe, 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 il ne va pas avoir trop le temps de me rembourser. Vous voyez ce qui peut germer dans nos cœurs. On est dans l'Ancien Testament. On n'est pas dans le Nouveau Testament, après la Pentecôte, où personne ne disait que les biens lui appartenaient, etc., etc. Alors je sais que certaines théologies disent « Oui, mais ça, c'était juste au temps de la Pentecôte, c'est plus possible aujourd'hui, il faut quand même avoir les pieds sur terre. » Ah bon ? Bon, alors il y a peut-être cette partie-là du Nouveau Testament qui est à mettre de côté. Non, reconnaissons que c'est difficile. Notre pensée de la justice, énormément basée sur le mérite, vient mettre des blocages énormes dans nos cœurs. Avec le Nouveau Testament également, la justice implique le pardon. Car la justice de Dieu a été manifestée par la mort de Jésus-Christ à la croix, qui nous a rachetés et justifiés devant Dieu. Cela nous conduit à pardonner, non pas une fois, mais d'une manière permanente, ce qui nous semble bien théorique. Peut-être parfois préférons-nous garder notre rancune ou une distance ou notre position, quitte à manifester des attitudes qui laisseraient penser qu'il y a pardon. Mais en fait, ne perdons pas notre temps. Ne perdons pas notre temps en vain sacrifice. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Très-Haut ? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an ? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile ? Donnerai-je pour mes transgressions, mon premier-né ? Des fois, on est prêt à faire beaucoup. Plutôt que de relâcher, quoi. Osée 6:6 nous dit... Car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Jésus va reprendre ce verset dans Matthieu 9:13. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jésus va rappeler ce verset au moment où il appelle Matthieu, le publicain, percepteur, collabo, non seulement percepteur collabo, qui certes se lève quand Jésus l'appelle. Tout n'est pas réglé chez Matthieu, je ne pense pas. Mais il se lève, comme le fils prodigue, il se lève. Et Jésus vient habiter chez lui. Et ses collègues de travail viennent aussi, percepteurs d'impôts, hommes pêcheurs, trafiquants de toutes sortes. Jésus n'a pas approuvé leur conduite, mais il souligne simplement qu'il est venu pour ça. La justice que le Seigneur nous demande de pratiquer, c'est cette justice qu'il a manifestée à la croix, et que si nous l'avons bien comprise, si nous l'avons bien reçue, pour nous, je vous invite à être égoïste un instant, avons-nous reçu cette justice ? Ce pardon pour nous, l'avons-nous bien reçu ? Alors si nous l'avons bien reçu, nous pourrons supporter quelque injustice. Paul nous invite les Corinthiens à cela. Les Corinthiens qui en étaient rendus à se faire des procès entre eux. Je souligne à ce sujet-là que c'est déjà la pensée, si vous avez bien écouté dans Deutéronome 15, il y a déjà cette pensée-là, et là je vais peut-être choquer certains, il y a un traitement différent dans nos comportements entre frères et sœurs en Christ, et avec les païens. Alors là, c'est une idée qui va à contre-courant. Dieu nous dit clairement, ne traitez pas avec tout le monde pareil. On verra pour la miséricorde. Dans les Corinthiens, c'était des chrétiens entre eux qui se faisaient des procès devant les gens du monde. Et Paul leur dit, vous avez personne au milieu de vous qui ait reçu une sagesse de Dieu pour trancher. Entre chrétiens, il peut y avoir des différends. C'est possible. Mais comment allons-nous régler le problème ? Nous sommes dans un corps. Comment allons-nous régler le différend ? Y a-t-il personne au milieu de vous qui puisse trancher ? Ah, vous allez dire, ben oui, mais avec les païens, il faut être gentil aussi. Certes, certes. Mais tant que quelqu'un n'est pas à Christ, ou alors nous avons une coupable illusion sur l'homme et sur ce que nous sommes nous-mêmes, que de croire que les problèmes, s'il n'y a pas le pardon, si un homme n'est pas convaincu de péché, n'est pas humilié, n'a pas compris que sa vie était perdue sans Christ, pour les relations d'affaires dans le monde, il faut les traiter, entre guillemets, selon les lois du monde, sans, on peut abandonner des choses, mais n'ayons pas d'illusions. On peut prier, Dieu peut agir, mais il y a des moments, il y a derrière cela la pensée, souvent, que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, puis on est tous unis et ça baigne. Finalement, c'est la pensée de quoi ? On n'est pas si mauvais que ça. Et cette pensée finit par nous tromper. Elle nous trompe sur nous-mêmes, sur les autres, et elle amène des désillusions et des amertumes profondes. La justice de Dieu, lorsqu'elle est descendue dans nos cœurs, lorsque la valeur de ce sacrifice, la combien de nécessité que nous avions d'être purifiés, d'être justifiés, descend dans nos cœurs, elle amène des choses qui sont complètement, qui peuvent nous heurter naturellement. Par exemple, elle va permettre à l'esclave converti à Christ de supporter sa condition d'esclave. C'est ce que Paul dit. Il ajoute, néanmoins, si tu peux être libre, profites-en plutôt. Mais est-ce que nous n'aurions pas tendance à dire, mais regarde, ce frère, il faut que je revendique parce que c'est pas normal ce qui se passe et dans l'entreprise et ceci et cela. Et la revendication, elle est là. Questionnons-nous là-dessus. Est-ce que c'est là notre premier travail ? Le Seigneur nous demande de défendre la veuve et l'orphelin, de nous donner. Mais elle ne nous demande pas de christianiser le monde, de prendre en main tous les rouages de la justice. Non, non. Ça nous aimerait, ça plaît à la chair, ça. Parce qu'on fait des belles œuvres. Et puis ça y est, on est en train de redresser les choses. Mais ce n'est pas ça qu'il nous invoque. Il nous invoque de manifester sa justice. Nous, de la pratiquer. Nous, pratiquons-la. Que les chrétiens pratiquent la justice selon Christ. Accepte le scandale de la croix et manifeste la justice selon Christ. Si le Seigneur nous place au sein de ce monde, dans des endroits où nous pourrons influencer, eh bien, alléluia. Mais ça, c'est un appel particulier que Dieu place sur des vies. J'allais dire, dans n'importe quel milieu professionnel où on se trouve. On est celle et lumière. Mais on n'a pas à prendre les affaires en main. Aimer la miséricorde. Je voudrais tout de suite dire que la miséricorde n'est pas une tolérance à bon marché ou un compromis avec la vérité. La miséricorde, elle peut se manifester envers un frère, une sœur en Christ ou en humanité, lorsque notre cœur est brisé en réalisant de quel amour nous avons été aimés et selon quelle justice nous avons été justifiés. Alors nos cœurs, abandonnant nos repères de propre justice et toute revendication, nos cœurs illuminés par la justice accomplie par l'œuvre de Christ supportent alors quelque injustice. Ainsi, au moins une des conditions est remplie pour obéir à ce que nous commande la parole. Si ton frère a péché, va, reprends-le seul à seul. Qu'est-ce qu'a à voir la miséricorde là-dedans ? C'est une parole de Jésus. Si tu vois ton frère qui pêche, va, reprends-le seul à seul. Si ton frère a péché, s'il a péché, encore faut-il qu'il ait péché. Comment sais-tu qu'il a péché ? L'as-tu entendu par des bavardages ? Tu ferais bien de vérifier alors. Mais si, manifestement, tu vois qu'il y a quelque chose, tu as confirmation. Le Seigneur nous dit, va. Je ne sais pas vous, moi, ce n'est pas facile. Le Seigneur nous dit, va. Oui, mais qui suis-je ? Alors d'un seul coup, on se dit là, après c'est de trouver bien juste, d'un seul coup, on se dit, ouais, mais moi, tu sais, je ne suis pas mieux, machin, puis c'est tout le monde, puis il faut être tolérant. Hein ? Miséricorde. Si ton frère a péché, va. Et si tu as compris ce qu'était la miséricorde de Dieu à ton égard, tu vas déjà être en meilleure posture pour y aller. Parce que tu ne vas pas y aller pour leur dresser à coup de serpe. Tu vas y aller comme un pécheur racheté, gracié. Pécheur racheté, gracié. Et ça ne va pas être facile. Parce qu'on va craindre, peut-être. Tant mieux. Mais on va pouvoir lui dire. Ce que je décris là, chacun a une attestation que la miséricorde ait fait son œuvre dans nos cœurs. À ce moment-là, sans doute, il est bon de préparer nos cœurs et de se souvenir de la purification des anciens péchés. Il est bon aussi de prendre notre courage, on dit à demain, je ne sais pas, en tout cas de demander au Seigneur, donne-moi le courage nécessaire. Donne-moi aussi peut-être la patience, parce que j'aurais tellement que l'affaire soit réglée, mais peut-être que ce n'est pas le temps. Si ton frère a péché, va, reprends-le seul à seul. Vous savez la suite de ce passage, s'il t'entend, s'il t'écoute, tu as gagné un frère. Tu as ramené une brebis qui était en train de s'égarer. La miséricorde n'est pas non plus un renoncement au discernement, au contraire. La miséricorde est vécue dans une souffrance, car nos yeux sont bien ouverts sur les péchés et la situation, mais nous décidons, nous souvenant à quel prix nous-mêmes nous avons été rachetés, de pardonner, de patienter et d'intercéder pour que Dieu agisse dans les cœurs. Si je suis dans cette attitude, à savoir, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, alors il pourra nous utiliser le moment venu, peut-être pour parler. La miséricorde n'est pas un renoncement au discernement des choses. Elle n'est pas un renoncement, au contraire, demandons au Seigneur de nous donner le discernement, ce qui est dans nos vies, les uns et les autres, des choses qui restent, que les autres voient bien et que nous ne voyons pas, c'est les fruits de nos vies d'avant, c'est toutes nos solutions qu'on a trouvées pour ne pas souffrir, pour ne plus souffrir, pour ne plus nous faire avoir, c'est ce fruit-là qui est là, ça ne se détrône pas comme ça, ça s'enlève pas comme ça. Il faut qu'on accepte de voir. Souvent, on se dit, tous ensemble, ça baigne, oui, bonjour frère, sœur, machin. Et puis les choses restent. Nous avons vécu hier les obsèques de notre frère Lionel. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'hommes et de femmes qui confessent le nom de Jésus-Christ sur cette ville. Beaucoup. Et Je crois qu'il s'est passé de belles choses. Mais je vais vous dire, j'avais à cœur. Seigneur, aide-nous à aller plus loin. Oui, des personnes qui ne s'étaient plus saluées se sont saluées. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous voulons l'action puissante du Saint-Esprit. Je me mets avec vous. J'ai vu des frères, des sœurs qui ont quitté l'Assemblée et je me suis dit, mais Robert, Seigneur, ça m'a beaucoup travaillé cette semaine. Est-ce que tu as été dans la douceur? Est-ce que tu as discerné dans ce qui clochait chez ces personnes? Il y a des choses qui clochaient. Est-ce que tu as discerné que c'était le fruit de l'iniquité et de choses qui n'étaient pas encore enlevées? Mais où a été ma patience? Mais où a été ma patience? Il y a eu des choses. Je veux y voir un début, un commencement. Mes frères et sœurs, l'unité, sanctifie-les par ta vérité, mets-les à part et les unis-les à toi par la vérité. Ta parole est la vérité. Il faudra qu'on accepte le discernement, il faut qu'on accepte que des choses soient tranchées. Et ce n'est pas accepter tout et n'importe quoi. Mais par contre, j'entends la leçon de la patience. Ça va loin cette histoire-là, je reconnais que ça peut être la chair aime bien les choses bien en ordre, qui apparaissent bien, qu'on serait plus fort que les autres pour faire l'unité. Non, il n'y a que lui qui peut la faire. Le troisième point, je ne peux pas développer plus. Oui, la miséricorde n'est pas confusion, n'est pas fusion et unité à tout prix. Je rappelle que la justice et l'équité sont la base de son trône, la bonté et la fidélité sont devant sa face, ça marche ensemble. Supportons, et ça nous amène à l'humilité, voire à l'humiliation. Supportons qu'à ce jour, l'Église de Jésus-Christ, elle est dans l'état, elle est à la fois belle, mais reconnaissons qu'il y a bien des blessures. Reconnaissons qu'il y a bien des blessures. Où est le sujet de se glorifier? Ça nous amène, c'est vrai, à marcher humblement avec notre Dieu. Cette marche humble avec Dieu, elle apparaît pour moi comme une conséquence après ce que nous avons dit sur la justice et la miséricorde. Saisissant l'immensité du scandale de la croix, selon les critères humains ou religieux, mais touché par l'amour ainsi manifesté, notre cœur, souvent raide, j'ai pas voulu développer, il y a plusieurs passages dans Exode où Dieu souligne, ce peuple, il a un cou raide. Frères et sœurs, j'ai un cou raide. On a un cou raide. Et il faut que cette circoncision du cœur, circoncisez vos cœurs pour que vos coups soient souples maintenant. La croix est un scandale pour les Juifs, une folie pour les Grecs. Ça veut dire quoi? Les Juifs attendaient une gloire et souvent nous voudrions une gloire ici pour l'Église de Jésus-Christ. Voir à ce qu'elles prennent le pouvoir. Folie. Nous ne supportons plus le scandale de la croix. Pour les Grecs, folie parce que qu'est-ce que ça veut dire? Un sauveur mort à la croix? Quelle puissance, il n'y en a pas. C'est un échec. Et ce monde dit la croix, folie, supprimons-la. L'homme est bon, on va l'améliorer, on va y arriver. Notre cœur, souvent raide, a besoin d'être circoncis et touché. Nous sommes vaincus dans le procès que Dieu intente à son peuple. Vous allez dire, il n'est pas très encourageant, il veut qu'on soit vaincu. Oui, qu'on soit vaincu devant Dieu. Mon peuple, que t'ai-je fait? Que t'ai-je fait, mon peuple? J'ai envoyé mon fils mourir à la croix pour toi. Frères et sœurs, Dieu, il a oublié nos péchés. Il a oublié nos péchés, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il a oublié l'omniscient, l'omnipotent, celui qui sait tout. Il a oublié les péchés de ceux qui ont confessé Jésus-Christ, qui l'ont reconnu comme sauveur. Il les a oubliés. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de s'en souvenir. Parce que Dieu, figurez-vous, il n'est pas tenté par le péché. Nous ne les oublions pas. Et c'est une bonne chose. Parce que figurez-vous qu'on a été graciés, mais il ne peut nous arriver encore de pécher. Et si le Seigneur permet qu'on s'en souvienne, c'est pour nous éviter de chuter. Dieu, il n'a pas besoin de s'en souvenir. Nous, nous avons besoin. Moi, j'ai besoin de m'en souvenir. Nous, nous sommes justifiés par le sacrifice de Jésus et le Père nous voit juste. Alléluia. Alléluia. Aussi longtemps que nous demeurons en son Fils. Et si nous chutons, nous chutons et que nous revenons repentants, il est notre avocat et son sang nous purifie de tout péché. Pas une raison pour fanfaronner et nous glorifier d'autre chose que de Jésus-Christ crucifié. Il est notre avocat et son sang nous purifie notre péché. Il va plus loin. Si notre cœur nous accuse, lui, il est plus grand que notre cœur. Daniel a souligné ce passage. Il n'y a plus de sacrifice pour celui qui sait. Alors c'est vrai, je n'ai pas le temps de développer ce matin. Est-ce qu'on a commis le péché, que c'est fini, c'est cuit pour nous? Non. Non. Tant que justement, et c'est aussi l'action du Saint-Esprit, tant qu'on est travaillé, tant qu'on est encore tourmenté, c'est que le Saint-Esprit, il n'a pas abandonné la partie pour nous ramener. C'est toujours la même solution. Nous avons besoin de ne pas oublier que nous avons été purifiés et à quel prix, non pour nous garder la tête basse, mais pour nous garder des rechutes. Frères et sœurs, marchons humblement, car nous voyons combien l'Église a besoin d'une vraie unité sur la base de la vérité. Nous sommes dans ces temps un peu, enfin à la fois complexes, si on va glaner à droite à gauche. Mais c'est des temps vraiment qui nous invitent à rechercher tout le conseil de Dieu dans sa parole. C'est un chemin étroit, je le dis souvent, mais praticable. Et l'humilité amène une paix, je veux l'attester. Bon, l'humilité... On n'est pas chargé d'humilier. Hein. La parole dit, il m'est bon d'être humilié, je cite souvent, afin que je connaisse tes statuts, avant d'être humilié, je m'égarais. Ça s'adresse à moi. Père, Robert, il est bon que Robert soit humilié, afin qu'il connaisse tes statuts. Robert n'est pas chargé d'humilier ses frères et sœurs. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Mais ce que cela nous enseigne, c'est que les circonstances, les séquelles de notre vie, notre manque de connaissance encore de Dieu finalement, de notre Père, de qui il est, nous amène, nous embarque dans des circonstances où c'est pas terrible. Alors ça nous humilie, c'est ça que nous dit la parole. Simplement ce que nous sommes invités à faire, c'est pas balayer ça du coin en disant « je taille la route, moi j'ai la foi et je sais », non. Considérons ces choses. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire là, que je puisse te répondre correctement? Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. La compréhension de l'œuvre de justice accomplie par Jésus-Christ à la croix et le souvenir de la purification de nos péchés brise nos cœurs raides et nous rend capables d'exercer une véritable miséricorde qui n'exclut pas le discernement à l'égard de nos semblables. L'humilité n'est alors pas feinte, mais un caractère de celui qui a fait de nous sa demeure. Cette œuvre-là, elle résulte de l'application de la circoncision du cœur opérée par la parole de Dieu, tranchante, qui sépare, non pas avec dureté, mais qui nous dit « Mon enfant, il y avait ça qui traînait, je viens le trancher aujourd'hui. » Cette parole, elle est amour et vérité lorsque le ministère du Saint-Esprit, justement, s'applique. Nous prions. Seigneur notre Dieu, tu nous invites à marcher humblement, Seigneur. Tu nous invites aussi, c'est vrai, à nous glorifier en toi et en toi seul, Jésus-Christ. Nous voulons marcher humblement, Seigneur, pour pas aussi être obstacle. Que cette humilité, Seigneur, elle soit un fruit, non pas une œuvre d'un cœur religieux, mais le fruit d'une compréhension qui a grandi, Seigneur, de ton sacrifice, de ton immense amour, de l'œuvre de justice que nous voulons saisir encore davantage, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas une humiliation d'hommes et femmes courbés, Seigneur, par la culpabilité qui essaie d'avancer, Seigneur, mais d'hommes et de femmes qui ont reconnu et qui ont été libérés et qui se souviennent simplement. Nous faisons mémoire de ton sacrifice, Seigneur, chaque dimanche. Nous voulons faire mémoire que tu as perdu la mémoire de nos péchés, volontairement. Alors, Seigneur, nous nous souvenons, nous, d'où tu nous as tirés. Cela ne nous écrase pas ce matin, Seigneur. Cela nous conduit à célébrer la gloire de ta grâce que tu as manifestée dans le bien-aimé. Nous te bénissons, Père. Amen.